Vous écoutez RTL.
A tout de suite.
RTL, première radio de France.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hulk.
Bonjour les curieux, bienvenue à vous dans votre nouveau 14-15. Chaque jour du lundi au vendredi sur RTL, on vous raconte des histoires stupéfiantes, touchantes, parfois révoltantes, toujours passionnante. Vous allez bien, Thomas ?
Salut Sidonie, ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous. On croyait avoir décroché le pompon en France avec nos télé-réalités. Eh bien, il existe plus fou, plus trash aussi dans le monde. Des chasses à l'homme, des bébés à louer, des phobies à affronter et du sexe sous toutes ses formes, vous verrez.
Et tout de suite, on plonge sur RTL. On plonge et on nage avec les cachalots.
Les cachalots, les grosses têtes, les plus gros cerveaux du monde. Une espèce intelligente et sociable qui parle une langue dont les mots sont des clics.
RTL.
Ils plongent à 3000 mètres et tiennent une heure et demie en apnée.
La curiosité est un vilain défaut.
Le cachalot utilise une arme absolue, le cri qui tue.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous avez peut-être vu cette photo circuler sur Internet, une photo d'un cachalot qui nageait la semaine dernière devant le Cap de Nice. On voit une immense queue balayer l'air comme ça. C'est vrai que c'est pas si courant d'assister à un tel spectacle. Ça nous a donné envie, à nous aussi les curieux, de plonger puis d'aller voir ce qu'il se passe en dessous, au plus près de ces mammifères marins. Et c'est pour ça qu'on a invité François Sarano. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes plongeur, ancien directeur scientifique notamment des missions Calypso avec le commandant Cousteau. Alors un cachalot comme ça qui agite sa queue, c'est pas forcément pour nous faire signe.
Non, d'abord c'est magique. Quand on voit une queue qui s'élève, qui se dresse vers le ciel, qui fait 4 mètres d'envergure et qui tout d'un coup va frapper la surface, c'est magique. Après ça, qu'est-ce que ça veut dire? Réinvitez-moi dans 70 ans, je vous le dirai peut-être. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait rien. Mais, attention, aujourd'hui les cachalots nous invitent dans leur monde et peut-être que maintenant nous allons pouvoir, comme l'ethnologue qui étudie une société en s'immergeant, comprendre ce que cela veut dire.
Donc c'est bien un signe, il nous disait de venir.
Oui, peut-être. Et peut-être plus simplement, comme je le crois, par plaisir. Parce que les cachalots qui ont beaucoup de temps, eux, prennent beaucoup de plaisir à jouer. Et comme nous, à toucher l'eau avec le pied, eux, peut-être, à prendre la température de l'air.
Alors François Sarano, vous menez depuis des années des missions au plus près des cachalots pour les comprendre. Et vous allez nous raconter vos dernières découvertes. Mais on va commencer quand même par quelques questions de base. Tiens, par exemple, la différence entre un cachalot et une baleine, c'est quoi ?
Alors, tous les deux sont des cétacés, des mammifères comme nous. Ils respirent à l'air libre, mais vivent dans l'océan. Tous les deux se nourrissent dans l'océan et ils mettent bas. Mais l'un, la baleine, n'a pas de dents et a des lames cornées qui lui servent à filtrer l'eau qu'elle ingurgite pour retenir les crevettes et les petits poissons. L'autre, le cachalot, comme le dauphin ou l'orque, a des dents qui lui servent à capturer ses proies, qui sont les calmars qui vivent dans les grandes profondeurs.
Donc les grands calmars,
c'est pas
ce qu'on déguste dans nos assiettes. Quoi.
Si. Suivant l'endroit où ils se trouvent. Exactement. Ils peuvent manger jusqu'à 500 ou 1000 calmars par jour lorsque ce sont des tout petits calmars. Mais lorsque ce sont des calmars qui font 50 kilos, bien entendu, ils en mangent une dizaine et ça leur suffit.
François Sarano, vous publiez Le Retour de Moby Dick ou ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes. C'est chez Actes Sud Éditions. C'est un récit qui fourmille d'anecdotes. Et justement, les cachalots, est-ce qu'ils peuvent être dangereux pour l'homme? Moi, je préfère dire l'humain, parce qu'il y a les femmes aussi.
Alors, les cachalots ne sont pas dangereux pour les humains. Au contraire, leur curiosité les amène à venir auprès de nous lorsqu'on est dans l'eau. Et avec une délicatesse infinie, ils font des arabesques, des contorsions, peut-être pour nous éblouir, probablement pour nous inviter à partager leur monde. Mais toujours, toujours, ils passent à côté de vous sans jamais, jamais vous heurter.
Donc ils ne peuvent pas nous croquer, les cachalots?
Non, tout ça est légendaire. Jonas, c'est des belles légendes, il faut les garder, mais c'est légendaire.
Ce cachalot dont on a vu la queue comme ça majestueuse de 4 mètres s'agiter devant nous, devant le Cap de Nice, est-ce qu'il était seul, sans doute, ou les cachalots vivent en société? Ils étaient plusieurs?
Alors, cela dépend si ce sont des mâles ou des femelles. Les femelles vivent toujours en groupe sociaux très soudés, avec les immatures. Et dès que les mâles atteignent la maturité sexuelle physique, ils quittent ces groupes matriarcaux et se retrouvent parfois solitaires. Mais en général, les groupes, même s'ils sont distants, les groupes de mâles adultes sont quand même en relation les uns les autres.
Alors ces groupes, je crois qu'on les appelle des pods, c'est ça ?
Oui, alors les pods, c'est le nom anglais. Ouais. Nous, nous appelons ça les clans.
Les clans
qui regroupent donc les femelles d'une même lignée. Il y a la grand-mère, l'arrière-grand-mère, la fille, la petite-fille. Ouais. Et encore une fois, tous les immatures qui peuvent être mâles et femelles.
Donc les petits, les bébés, les
bébés.
Ceux qui sont pas encore adultes.
Les bébés jusqu'à 10 ans.
Et donc ça fait combien, ça fait quelle taille un bébé de 10 ans?
Alors un bébé de 10 ans, c'est 9-10 mètres pour un mâle, un tout petit peu plus petit pour les femelles.
Saviez-vous que le cachalot, géant des mers, allait ses petits en faisant la chandelle? On vous dit tout de ce grand moment de poésie dans une minute sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux.
Vous écoutez RTL. Première radio de France, RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
La musique du film Moby Dick, ce roman qui a beaucoup fait pour propager une image terrifiante des cachalots. Et pourtant, c'est un monde de caresses, c'est un monde de poésie que nous fait découvrir notre invité, le plongeur et scientifique François Sarano. Ça fait des années, des décennies que vous plongez. Et ça fait longtemps aussi que vous étudiez les cachalots, et notamment une famille bien précise de cachalots, et un bel événement, un heureux événement est arrivé, une naissance. Racontez-nous.
Oui, ça fait maintenant 6 ans que nous suivons le même clan et que nous voyons grandir les jeunes comme nous voyons grandir nos enfants, et nous voyons leur personnalité s'affirmer.
Donc mais il y a cette année, deux parents et plusieurs enfants.
C'est plus compliqué. Toutes les femelles peuvent être parents parce que les mâles viennent se reproduire chaque année et tour à tour, chacune des femelles mettent bas. Et cette année, nous avons eu la chance d'avoir la naissance d'un tout jeune mâle qu'on a baptisé Baptiste. Et alors c'est formidable parce qu'il fait 3,50 m, il est encore tout plissé, il n'est pas déplié, il a la queue qui est toute molle, alors il dodeline, il flottille un peu, bof, il coule, il ne sait pas très bien respirer. Et chaque cachalot adulte vient, l'entoure à plusieurs, comme dans un berceau. Il le soulève jusqu'à la surface pour qu'il puisse respirer. Et puis, il est plus assuré. Alors on le voit, il nage près de sa mère qui s'est remise de son accouchement. Et petit à petit, il prend assurance et commence à suivre le groupe. Et c'est le moment du premier allaitement. Et ça, c'est magique.
Alors, décrivez-nous ça.
Alors, d'abord, la mère s'arrête, souvent se met en position verticale et va dégager les deux petites fentes qu'elle a au niveau du bas-ventre pour que ses tétons soient accessibles. Et le petit ne sait pas bien faire. Alors il donne des petits coups, il bouscule ça. Et puis, il va glisser sa petite mandibule dans une des fentes et avec sa langue, il pince le téton pour avoir une grosse giclée de lait.
Et ça se fait souvent en position verticale. On appelle ça la chandelle, c'est ça?
On appelle ça la chandelle. La chandelle, c'est plus particulièrement au moment où les adultes se reposent et dorment.
Ah, d'accord.
Et donc là, comme des menhirs, ils sont suspendus dans l'épaisseur liquide. Vous rentrez là-dedans comme dans une cathédrale, tout est silencieux. Et là, 10, 15 menhirs dressés qui flottent, un peu balancés par la houle. C'est quelque chose de bouleversant.
François Sarano, il y a cette nouvelle incroyable de ce petit cachalot, petit 3,50 m quand même, qui naît. Et vous avez aussi découvert qu'il communiquait, vous l'avez entendu, parler avec sa mère. Qu'est-ce que vous avez découvert?
Ah oui, alors là, c'est une grande première qu'on a pu réaliser grâce à la coopération avec un laboratoire de professeur Glotin qui a mis au point un enregistreur particulier qui nous a permis de démontrer que le petit cachalot communique avec sa mère en utilisant les expressions sonores propres à son clan. Ça veut dire que, comme le temps est trop court pour qu'il y ait eu un enseignement, soit il imite sa mère en faisant à 8 clics, c'est vraiment l'expression sonore de l'île Maurice, soit c'est de façon intra-utérine qu'il a été imprégné par ces expressions qui sont propres à chacun des clans.
Hein. Oui, parce que les cachalots ne parlent pas la même langue, voilà, en fonction des océans.
Si nous étions en Méditerranée, on aurait entendu terminé. Si nous avions été dans les Caraïbes, c'est bon, et donc...
Mais il n'a pas pu l'apprendre, donc, ça.
Non, il n'y a pas un temps d'enseignement suffisamment long. Ouais. Donc, c'est par imitation. Mais là, on a toute une séquence extraordinaire où on le voit câliner sa mère et puis dialoguer avec elle.
Vous avez fait une autre découverte, c'est le moyen de garde des cachalots. C'est-à-dire que, comme nous, parfois, il y a les mamans qui restent à la maison ou les papas, et parfois, ce sont les nounous, c'est ça?
Eh oui, parce que lorsque la maman va chasser à 1000 mètres de profondeur, elle laisse son petit à la merci des prédateurs dans un endroit où il n'y a nulle part où se cacher. Par conséquent, il fallait trouver une alternative. Donc, elle confie son petit à une nounou. Et dans le clan que nous visitons, il y a une nounou qui est Germie, qui est une femelle jeune, femelle adulte, et qui depuis plusieurs années suit chaque bébé qui arrive. Donc c'est merveilleux, et cette année nous l'avons vu s'occuper avec une délicatesse toute tendre de Baptiste.
Alors, on va continuer grâce à vous de partager, mais quel bonheur, quel cadeau vous nous faites le quotidien de ces cachalots. Vous racontez aussi ces histoires dans le Retour de Moby Dick, publié aux éditions Actes Sud. On va mieux comprendre leur communication, et puis aussi ces géants des mers, leur prouesse, parce que ce sont le roi de l'apnée, forcément.
Chaque jour, vous faites de RTL la première radio de France. Aujourd'hui, ce succès est reconnu par les professionnels des médias.
Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Merci.
Merci beaucoup.
RTL vient d'être nommé Radio de l'année lors du Grand Prix des médias 2017 CB News.
Merci à tous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à tous.
RTL.
RTL.
Première radio de France et meilleure radio 2017.
Moby Dick.
La curiosité est un vilain défaut.
Le monstre mythique a vraiment existé.
Il affirme avoir vu le monstre Moby Dick et lui avoir parlé.
N'êtes pas forcé de me croire, capitaine, mais Moby n'a rien d'un monstre.
Le cachalot géant a vraiment hanté des équipages et coulé des baleiniers.
La curiosité est un vilain défaut.
Le retour de Moby Dick, ou ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes, c'est le thème de notre curiosité, le titre du livre chez Actes Sud de notre invité, le plongeur et scientifique François Sarano. On découvre avec vous la beauté, la puissance, l'intelligence, la douceur, puisqu'ils se font énormément de caresses, des cachalots. Ce sont aussi des plongeurs. Ils peuvent aller jusqu'à combien de mètres sous l'eau pour chasser ?
Alors, on dit jusqu'à 2500 mètres de profondeur.
C'est le record.
Oui, ce sont des plongées extrêmes, mais quotidiennement, une quinzaine, peut-être une vingtaine de fois par jour, ils descendent jusqu'à 600 000 mètres de profondeur pour donc aller chercher les calmars. Pendant la journée, ils descendent à 1000 mètres parce que les calmars séjournent profondément, mais pendant la nuit, les calmars remontent eux-mêmes chasser des petits poissons qu'on appelle les myctophidés, et les cachalots en profitent pour aller les chasser moins profond à 600 mètres de profondeur.
Donc ce sont d'extraordinaires apnéistes, les cachalots ?
Formidable, une heure d'apnée. Et surtout, ils supportent des pressions incroyables. À 600 mètres de profondeur, c'est 60 atmosphères. Par conséquent, ils sont obligés de s'adapter. Et comment font-ils pour ne pas être écrasés ? Comment font-ils pour que leur cage thoracique, leur poumon ne soit pas réduit ?
De la muscu.
Rien du tout. De la muscu. Ils sont surtout très souples. La cage thoracique est très souple et donc ne casse pas. Mais surtout, ils ont un réseau de vaisseaux sanguins qui enveloppe chaque alvéole pulmonaire et qui va apporter un afflux de sang qui compense l'écrasement de l'air qui est dans les alvéoles. Et c'est ainsi qu'elles ne collent pas. D'accord. Et qu'elles peuvent après se réouvrir au moment de l'inspiration.
François Sarano, ils n'ont pas de palier de décompression à respecter, les cachalots ?
Ils remontent beaucoup plus vite que nous, les plongeurs. Ouais. Cependant, ils remontent, ils mettent un quart d'heure pour remonter de 600-700 mètres de profondeur. Et on a fait des études sur le squelette des vieux cachalots et ils montrent certaines nécroses qui correspondent visiblement à de petits accidents de décompression, comme celle que nous trouvons, nous, chez des plongeurs qui ont fait des accidents de décompression.
On va faire un peu le tour du propriétaire du cachalot. Vous nous rappelez ses mensurations ?
Alors, les
moyennes.
Le géant, 26 mètres, 50 tonnes, formidable, les grands mâles, Moby Dick, Moshadik plutôt, parce que le cachalot qui est à l'origine de la légende Moby Dick, c'est un vrai cachalot, Moshadik, qui a coulé un baleinier qui s'appelait l'Essex. Et Melville a construit son histoire là-dessus. Ça, c'était des géants. Maintenant, aujourd'hui, on trouve moins de grands animaux parce que la chasse les a décimés. Et pour avoir des géants dans une population, il faut que la population soit large. Donc, demain, nous trouverons peut-être dans une population rétablie de nouveau des grands géants. Aujourd'hui, des cachalots de 20 mètres. Nous en avons un à l'île Maurice, 22 mètres. Hein, nous l'avons mesuré grâce à une équation. On mesure dans le son, il y a différentes pulses et on mesure la taille de l'animal comme ça.
Ouais. Et les dents, alors du coup, ça fait quoi là, une dent de cachalot d'un cachalot de 20 mètres ou de 21 mètres ?
Un kilo ? Ah non, mais c'est gros. Mais il ne se sert pas de ses dents. Je crois que les calmars, il les avale
d'un
seul coup.
Oui. En revanche, l'humain s'intéresse aux dents des cachalots ?
Oui, les humains se sont beaucoup intéressés aux dents des cachalots, de l'ivoire. Il y a des dents sculptées magnifiques du temps des baleiniers. Ils avaient beaucoup de temps sur les bateaux. Ils faisaient des dessins et des sculptures dessus. C'était magnifique.
À part l'homme, est-ce que le cachalot a des prédateurs ? Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui osent les attaquer ?
Alors aujourd'hui, heureusement, la chasse est arrêtée et l'homme n'est plus un prédateur. Cependant, un certain nombre d'autres grands dauphins ce qu'on appelle les globicéphales, les faux orques ou les orques, s'attaquent surtout aux jeunes individus. Et on a vu des situations tragiques au cours desquelles un clan de cachalots attaqué n'a pu sauver un petit et un adulte, et bien que deux autres adultes soient partis à leur rescousse et se soient fait tuer à leur tour. Solidarité, mais impuissance.
Tiens, on va se réécouter une conversation, en tout cas une phrase de cachalot. Ça, c'est ce qu'on appelle des clics d'écolocation, c'est ça ?
Mieux, ce sont des codas. Et vous avez ici un dialogue entre deux femelles adultes
qui parlent de Thomas Hugues.
qui se demandent des petites caresses. En deux mots.
C'est vrai ?
Oui, ici c'est.
Oui, t'étais pas loin de la réalité.
Donc, ce sont des expressions sonores à 8 clics. Et lorsque l'une les met, elle semble demander à l'autre. Et si l'autre répond, alors elles se font des caresses très intenses.
Parce que la caresse, c'est un mode de communication entre cachalots aussi ?
Mais dans un monde où le bien-être est la règle, oui. Où c'est ce qu'on recherche, où on n'a pas besoin d'accumuler les biens pour les transmettre, on a beaucoup de temps libre, et donc c'est la recherche du bien-être tout de suite, immédiat. Dans ce monde-là, la caresse dit beaucoup plus que tous les mots.
Dans un instant, vous allez voir que les cachalots sont aussi, parfois, des ados à problème de peau. Tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
20 milieux sous les mers à la rencontre des cachalots avec le plongeur et scientifique François Sarano. On est très curieux des cachalots, on vous a posé plein de questions. On en a quelques-unes là, assez rigolotes, sur la qualité de leur peau. Il paraît que ce sont de vrais ados, les cachalots, ils ont des petits problèmes.
Eh oui, ils desquament beaucoup. Et pour nous, c'est-à-dire qu'ils perdent la pellicule de l'épiderme.
Hein. À des moments précis,
toute l'année, l'année. Oui. Et parfois, des pans de 1 mètre carré, 2 mètres carrés. J'en ai retrouvé, moi, qui sont gigantesques. Et pour nous, les scientifiques, c'est un atout formidable. Parce que nous pouvons faire l'analyse génétique de chacun des individus et donc faire l'arbre généalogique sans avoir à leur tirer dedans pour faire un prélèvement. C'est ce que nous avons fait cette année. C'est ma femme Véronique qui s'occuper de ces prélèvements-là, et nous sommes à l'aube de dresser le portrait de toute la famille, parce que nous avons fait, avec un laboratoire de Brest, Biogem et le professeur Jung, l'analyse génétique de chacun d'entre eux, sans les blesser. Nous les suivons, nous les identifions, et nous attendons qu'ils aient leurs problèmes de peau.
Autre petit désagrément, même si on n'est pas vraiment un, mais ce sont les petits poissons de peau de colle qui accompagnent toujours les cachalots. Qui sont-ils et pourquoi sont-ils là ?
Alors ces poissons pot de colle, ils sont vraiment pot de colle, mais ils n'importunent que les jeunes. Parce que les grands individus qui descendent très vite, très profondément et remontent trop vite pour ces poissons. Donc ils restent sur les petits individus qui restent dans la zone de surface. Donc ils collent avec leur nageoire dorsale transformée en ventouse, ils sont toujours collés sur le dos, sur ça, et ils se nourrissent à la fois des petits bouts de peau et des excréments, des cachalots, des déchets, choses comme ça. Ce qu'on appelle des poissons qui sont un peu nettoyeurs.
Hein. Donc pratique finalement.
Oui, assez pratique, mais ça laisse de fortes traces sur le cachalot. Hein. Ça blesse un petit peu l'épiderme.
François Sarano, je suis fasciné par le langage, le mode de communication et ce que vous avez fait tout à l'heure. C'est-à-dire, vous lui dites ça, c'est telle région du monde, telle mer du monde, etc. Mais ça veut dire que vous comprenez ce qu'ils disent ?
Non, je ne comprendrai. Personne ne comprendra jamais ce qu'il dit. Il faudrait être cachalot pour comprendre ce qu'ils disent. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est associer des comportements particuliers à des expressions sonores particulières. Et avec le professeur Glotin, aujourd'hui, nous essayons même, au sein de ces expressions, d'essayer de voir s'il n'y a pas des choses qui sont propres à chacun des individus et qui pourraient les caractériser. Après ça, une chose merveilleuse. Les cachalots, pendant toute leur jeunesse, utilisent ces fameux codas. Et puis quand ils deviennent adultes, ils n'utilisent plus qu'un seul son. Comme si on cognait deux barres métalliques. Serait-il devenu muet ? Ou dans ce seul son, y a-t-il une information énorme ? Peut-être y a-t-il même des histoires formidables que nous ne comprenons pas, parce que nous ne savons pas dissocier toutes les harmoniques et les impulsions sonores de ce son. Mais une chose est sûre, c'est que dans cette seule sonorité, il y a probablement beaucoup.
Merci, merci infiniment François Asarano pour ce voyage 20 milieux sous les mers, le retour de Moby Dick ou ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes. Un voyage à prolonger avec vous chez Actes Sud. Merci, à bientôt.
Et puis ce soir à la Maison des Océans, c'est ça, à Paris?
Oui, en plus on projettera un petit film et ce sera formidable.
Et ben voilà.
Merci infiniment.
Rendez-vous, merci à vous.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.